Merci pour ce temps qui nous a permis déjà de mesurer, de nous rappeler ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous voulons maintenant nous mettre à l'écoute de sa parole. Nous allons lire un récit qui est bien antérieur à Jésus-Christ, mais qui déjà dit les dimensions, la largeur de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu, cet amour qui se manifestera pleinement en Jésus-Christ. Donc c'est aussi à la lumière de Jésus-Christ que nous pouvons d'une certaine façon, lire le récit qui sera le nôtre. Nous lisons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, la guérison d'un général syrien au temps d'Israël. Deux Rois, chapitre 5. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme important aux yeux de son seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à la Syrie. Et cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition, les troupes syriennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur, donc au roi de Syrie, « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et Naaman partit, en prenant avec lui 10 talents d'argent, c'est-à-dire environ 250 kilos, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Lorsque le roi d'Israël eut lu cette lettre, il déchira ses vêtements en disant « Mais suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, pour que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Constatez, je vous le prie, il me cherche querelle. » Ce qu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il fit dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir chez moi, je t'en prie. » Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Alors Naaman se mit en colère. Il s'en alla en disant, « Je me disais, le prophète va venir, il va se tenir devant moi, il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et il débarrassera le lépreux de sa lèpre. Le fleuve de Damas, l'Abana, le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Et il repartit en fureur. Ses serviteurs vinrent lui dire, « Écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison s'il te dit, lave-toi et sois pur. » Alors Naaman descendit, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Je sais maintenant qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée dit, « Par la vie du Seigneur, au service duquel je me tiens, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais Élisée refusa. Alors Naaman dit, « Dans ce cas-là, je te prie qu'on me donne à moi, mon serviteur, de la terre, juste la charge de 2 mulets, car je ne veux offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur, Yahvé. Que le Seigneur me pardonne cependant ceci. » Quand mon seigneur, le roi, se rend à la maison de Rimmon, c'était le dieu de Syrie, pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Que le Seigneur me pardonne lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Et Élisée lui dit, va en paix. Et Naaman le quitta. Quand il fut à quelques distances, Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas ce qu'il avait apporté. Eh bien, par la vie du Seigneur, je vais lui courir après pour obtenir quelque chose de lui. Alors Géasi se lança à la poursuite de Naaman. Naaman le voyant courir après lui, sauta de son char pour aller à sa rencontre. Il dit « Tout va bien ?» Il répondit « Oui, tout va bien. Mais mon maître m'envoie te dire, voilà, deux jeunes gens d'entre les prophètes arrivent là maintenant chez moi, de la région montagneuse d'Éphraïm. Donne pour eux, je t'en prie, un talent d'or et deux vêtements de fête. » Naaman dit « Écoute, accepte deux talents. » Il insista auprès de lui, mit les deux talents d'argent dans deux sacs et les donna, et donna également que deux vêtements de fête à deux serviteurs qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi prit le présent, le déposa dans la maison et renvoya les hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son maître. Élise lui dit « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Je suis allé un peu nulle part. » Élisée lui dit, ton cœur n'était-il pas là lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre? Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit bétail, du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Bien voici, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi se retira de devant Élisée. Il était couvert de lèpre, il était blanc comme la neige. Jusqu'ici, cette lecture. Voilà un texte un peu mitigé. Un texte qui, par bien des côtés, est tellement rafraîchissant. Il nous rappelle combien large, combien bienfaisante est la bonté de Dieu. C'est d'une certaine manière l'un des îlots d'évangile sur la mer parfois tumultueuse des récits de l'Ancien Testament. On y trouve tout. L'amour de l'ennemi, la simplicité de la foi, la gratuité du salut. C'est beau toute cette première partie. Et on a parfois un peu de mal à aller jusqu'au bout du récit. Il y a tellement de belles choses à relever dans la première partie. La seconde nous projette un peu plus dans une zone d'ombre. Il est question de mensonge, d'un acte déloyal, d'un manque d'intégrité. Et finalement, on voit que la Bible éclaire toute notre réalité humaine, celle-là aussi. Alors notre actualité est aussi traversée par les effets négatifs du manque d'intégrité. Et nous voulons, dans ce contexte, nous rappeler que nous ne sommes pas à l'abri, non plus, de comportements qui peut-être ternissent l'appel qui est le nôtre. Et nous voulons valoriser le trésor de l'intégrité et d'une vie vraiment qui correspond à ce que Dieu lui-même veut accomplir dans ce monde. Alors on va suivre tout le récit. Et d'abord, le beau côté de cette histoire si étonnante. Nous sommes en Israël au 9e siècle avant Jésus-Christ, dans la partie nord du royaume. Le personnage de notre histoire n'est pourtant pas quelqu'un que l'on imaginerait naturellement au centre d'un tableau où l'on voit Dieu manifester son amour. Car voilà quelqu'un que tout désigne plutôt comme l'ennemi. L'ennemi, même l'ennemi type. C'est Naaman qui est au centre de l'histoire. Naaman qui sera guéri par Dieu. Naaman qui sera sauvé par le Seigneur. Et ce Naaman est syrien. La Syrie, à l'époque, c'est la menace contre le peuple d'Israël, contre le peuple avec lequel Dieu chemine particulièrement. Naaman donc est syrien. De plus, il est général, un homme de guerre, un homme de sang. Il est plus encore le général en chef, le premier militaire syrien. Oh, quelqu'un que l'on aime vraiment en Israël. Et puis le texte nous apprend, tenez-vous bien, que ce général est celui par qui le Seigneur avait accordé la victoire aux Syriens. Eh bien, c'est dans le texte. Et voici que le Dieu d'Israël se met à accorder des victoires aux Syriens, les ennemis d'Israël. Vous en voulez un peu plus encore? La suite du récit nous apprend que ce général a ramené captif du pays d'Israël une petite fille qui est à son service. Une petite arrachée à ses parents, à sa famille, à son village. Assurément, tout pour plaire. Et c'est envers cet homme-là, que tout désigne vraiment comme l'ennemi, c'est envers cet homme-là que l'amour de Dieu va se déployer. C'est l'histoire de cet homme qu'on va raconter en Israël pour dire les dimensions de la bonté de Dieu. Il représente vraiment l'amour sans frontières de Dieu. Et l'amour qui bouscule nos frontières à nous aussi. Il nous met au défi d'être un peuple au regard et au cœur sans cesse élargi. Cet élargissement dans notre récit aura comme premier acteur humain la jeune enfant, arrachée aux siens par une razzia militaire syrienne et qui se retrouve de ce fait au service du général syrien. Voilà quelqu'un, cet enfant, qui aurait toutes les raisons de se fermer sur elle-même comme une huître, toutes les raisons de s'enfermer sur son malheur et de se barricader dans le ressentiment, de se barricader dans l'hostilité. Mais voilà que cet enfant, lorsqu'elle découvre la fragilité et le souci du grand général atteint d'une infection dermatologique inquiétante et irrémédiable, c'est pas forcément la lèpre au sens moderne du terme, hein, c'est une infection qui était grave quand même. Lorsque cet enfant découvre cela chez le général, elle ne se ferme pas. Et elle a une parole qui va bouleverser son maître, l'amener à monter toute une expédition portée par un fol espoir à la fois magnifique et fragile. Elle lui dit « Oh si mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Une simple phrase, mais bouleversante. Voilà soudain une parole d'espérance dans une situation où humainement il n'y a pas d'ouverture, pas d'espérance. Voilà aussi juste un rayon de lumière, d'amour, de générosité. Cette petite déracinée par lui ou par ses hommes, c'est elle qui réfléchit, qui cherche une solution pour lui. C'est quand même magnifique, c'est beau, ça fait du bien, ça touche. Et c'est aussi une révolution dans les rapports entre les peuples. On lui dit, à lui le Syrien, que là-bas, ceux qui devraient être ses ennemis pourraient l'aider et pourraient le traiter en ami. Ça, même des mois d'intenses tractations diplomatiques, on n'arrive jamais à ce genre de résultat. Et puis enfin, c'est une vision de Dieu complètement inédite qui est présentée, car cette petite fille lui parle d'un Dieu qui s'intéresse aux besoins des hommes, qui est prêt à agir en leur faveur et qui dépasse les frontières, ces barrières qu'érigent les hommes. Et tout ça par une phrase. « Oh, si mon maître pouvait aller à Samarie, il verrait. » Une phrase portée par une foi simple, mais réelle, cette foi d'enfant, ouverte, inébranlable, donnera force à l'adulte qui tout seul vacillait. Cette petite a été, pour ce grand général, l'ambassadrice du Dieu de l'espérance, l'ambassadrice du Dieu d'amour. Ne minimisons pas ce que cela a exigé. Ce n'est pas parce qu'elle était une enfant que ça venait naturellement. Parce qu'il lui a fallu garder confiance en Dieu, à cette petite, malgré ce qui lui était arrivé, malgré le drame d'avoir été soudain arraché aux siens. Il lui a fallu ne pas s'enfermer dans l'aigreur ou dans la haine contre ceux qui l'avaient emmené. Il lui a fallu ne pas se refermer sur sa douleur, sur son enfance dévastée. Il lui a fallu aimer, rester sensible. Il lui a fallu cultiver aussi, en terre étrangère et loin de tout, la mémoire de l'action de Dieu, la mémoire de ce qu'elle avait appris de lui. Et il lui a fallu vouloir partager cela à cet homme dont elle voyait la dent. Voulons-nous être nous aussi des ambassadeurs de Dieu autour de nous? Cultivons ces mêmes attitudes. Laissons-nous modeler, renouveler par l'Esprit de Dieu au cœur de ce que nous vivons, même si ce n'est pas toujours facile ou rose, même si c'est parfois exigeant, mais ce le sera certainement moins que ce que vivait cette petite-là. Et puis, osons dire à ceux que nous côtoyons avec un esprit de foi que Dieu peut leur faire du bien. Osons exprimer simplement notre confiance en Dieu pour ceux qui nous entourent, dans leur situation. Prions peut-être avec eux, prions en tout cas pour eux. Cette jeune fille, dans sa simplicité, est un modèle pour nous tous, une ambassadrice exemplaire. Le général partira donc, mais il partira avec ses réflexes d'adulte et d'homme politique. Un général d'État qui se rend dans un autre pays, procédure d'homme d'État. Et le voilà qui part avec une lettre de son roi, pour qui ? Pour le roi d'Israël, et des cadeaux somptueux, dignes d'une délégation diplomatique officielle. Le roi d'Israël, lui, croit à une provocation déguisée. Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Triste constat. Un homme vient à lui plein de foi, il est le roi d'Israël, qui connaît le Dieu de son peuple, le Dieu qui s'est fait connaître à son peuple. Un homme vient à lui plein de foi, et lui n'a rien à lui offrir, aucune piste à lui indiquer, pas même l'adresse du prophète. C'est qu'il s'est coupé de la source, le roi d'Israël, et parce qu'il est coupé de la source, de la relation vivante avec Dieu, il est sans saveur, il n'a rien à offrir. Et l'on pense à cette parole de Jésus qui dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? La petite, elle, avait gardé la saveur de la foi, la saveur de l'espérance, la saveur de l'amour sincère. Le roi, lui, l'avait perdu, cette saveur. Il n'a rien à offrir à celui qui vient vers lui. Veillons donc à rester relié à Dieu, bien enraciné en lui, pour garder la sève lorsqu'il faut en avoir. Il faudra donc l'intervention d'Élisée, le prophète, pour sortir de cette impasse. Et voilà Élisée qui fait apporter un message au roi, trop loin de chez lui, qui dit « Fais-le venir chez moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et là, l'espoir renaît pour Naaman, le général. Mais cette fois-ci, une fois qu'il est invité chez Élisée, c'est lui, le général, qui sera pris de court. Car le prophète n'agira absolument pas comme il l'avait imaginé. D'abord, Élisée ne vient pas en personne. Il envoie un serviteur, un messager. Et puis, Élisée l'invite à un acte qui semble d'une simplicité affligeante. Plonge-toi cette fois dans le Jourdain. Le grand général avait imaginé un autre film. Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là, qu'il invoquerait le Seigneur, son Dieu, qu'il passerait la main sur ma partie malade et qu'il me guérirait de ma lèpre. À cause de ces schémas, il est tout près de se vexer, vous l'avez lu, et de tout plaquer, de rentrer chez lui fâché, mais toujours malade. Dieu n'entre pas toujours dans ce que nous avons prévu, dans ce que nous avons imaginé. Ne nous fermons pas à lui pour autant. Veillons à ne pas faire de caprices lorsque les choses ne se passent pas tout à fait comme nous le désirions ou comme nous l'avons imaginé. Ce qui bouscule aussi Naaman, c'est la simplicité de ce qui lui est demandé. Se plonger cette fois dans le Jourdain. Quoi ? Tout ce voyage pour entendre ça ? Non mais il y a d'autres rivières, etc. Il y a là une simplicité, un dépouillement qui font obstacle. Il attendait quelque chose de plus élaboré, de plus rituel, avec peut-être des obligations aussi plus compliquées. Va te laver cette fois. Est-ce si simple que ça ? Va. C'est d'abord l'appel à une réponse personnelle. Ce n'est pas le prophète qui va agir pour Naaman, c'est lui. Et sur la parole du prophète devra entrer dans l'eau. Naaman là sera seul, cela se passera entre lui et Dieu. Va. Ce qui semble si simple est d'abord un appel à la démarche personnelle. Va te plonger cette fois dans le Jourdain. C'est pas une fois. De plonger une fois dans le Jourdain, dans les eaux qui seraient magiques et qui, parce que les eaux sont magiques, te guériraient. C'est cette fois. une autre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce processus entre deux fois? C'est un temps où l'on attend, où l'on demande, où l'on prie. Entre deux plongeons, c'est l'espace pour la prière, pour la demande, pour la foi, pour quelque chose qui se passe entre lui et Dieu. C'est à cela que Dieu veut l'amener. Pas un acte magique du prophète qui fait son petit numéro devant lui, mais un acte qui l'engage, lui, personnellement, Naaman, dans une démarche de prière, dans une démarche d'attente, de confiance, de foi. On a ici, dans ce Naaman qui doit se plonger dans le Jourdain, une image du salut que Dieu veut nous donner. La lèpre dans la Bible, cette maladie qui fait des taches sur la peau qui invalide ensuite, cette lèpre est souvent l'image du péché qui nous marque nous aussi comme une sorte de souillure, comme un corps étranger dont on aspire à être tellement libéré. Et c'est vrai que Dieu veut nous purifier de nos fautes, nous purifier de nos péchés, nous ôter notre culpabilité. Et c'est pas juste un endroit de notre vie, c'est tout notre être qui a besoin d'être purifié, tout comme Naaman avait besoin de se plonger tout entier dans le fleuve. Nous avons besoin de Dieu bien plus que nous ne le croyons. L'Évangile nous dit que c'est l'œuvre du Christ, sa mort, sa résurrection que nous avons évoquée tout à l'heure, qui rendent possible cette purification intérieure, notre réconciliation avec Dieu. Tout a été accompli par le Christ pour que nous puissions recevoir le pardon pleinement, gratuitement. Comme Naaman, il nous faut entrer, attendre, demander. Et ce n'est pas une affaire de rite, c'est une démarche personnelle à faire entre Dieu et nous. Reconnaître notre besoin de grâce, de pardon. Accepter le moyen choisi par Dieu, comme Naaman a dû choisir, accepter le moyen choisi par Dieu. Et ce moyen, c'est vraiment l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection pour nous. Et puis, il faudra entrer dans la démarche, personnellement, prier, demander, purifie-moi, pardonne-moi, accueille-moi comme ton enfant. Naaman était venu pour sa maladie de peau. Ce qu'il découvre va bien plus loin que la guérison physique. Il découvre que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de ses ennemis, s'intéresse à lui, intervient pour lui, le guérit, le purifie, des ressources d'amour pour lui. C'est éblouissant. Et ça veut dire aussi que dans son cœur, à partir de ce moment-là, le choix est fait. Il revient vers Élisée, il dit « Je sais ». Il n'y a pas de Dieu sur toute la terre, si ce n'est le Dieu d'Israël. La foi en Dieu est là maintenant. Il reconnaît que Dieu est l'unique. Il a pris sa décision. Ce Dieu, le seul vrai Dieu, sera son Dieu. Et c'est avec ces dispositions qu'il retourne vers le prophète. Si nous aussi nous venons à Dieu, c'est pour aller jusqu'au bout de ce chemin. Recevoir de sa part le pardon. Recevoir de sa part purification de nos fautes, la réconciliation, et ce qui veut dire aussi ensuite, Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu, celui vraiment que je servirai à tout moment. Naaman se présente donc devant Élisée. Là, cette fois-ci, il est accueilli par le prophète. Il est venu de son pays chargé de cadeaux. 10 talents d'or, c'est-à-dire 250 kilos. 10 talents d'argent, par contre, 250 kilos. 6 000 pièces d'or. 10 tenues de fête. Il veut payer le prophète. Élisée refuse. Il lui dit, « Je suis au service du Seigneur. C'est Dieu qui a agi. » Naaman insiste. Élisée persiste dans son refus. Et là, Naaman découvre un autre aspect de Dieu au travers de ce refus. Ce Dieu qui l'a fait sien, ce Dieu-là est un Dieu qui donne gratuitement. Ce que Dieu fait pour nous, c'est vraiment cadeau. C'est l'expression d'un amour qui ne vise que nous, et d'un amour qui ne veut pas être captateur ensuite. Élisée, par sa fermeté à refuser le cadeau, rend témoignage de cela. Dieu est un Dieu qui offre qui offre gratuitement. Non seulement l'ouverture sans frontières de l'amour de Dieu, mais sa gratuité. Et c'est un émerveillement de plus, un sujet de plus à méditer. Une différence de plus qui fait de Dieu l'unique. Et pour nous qui savons jusqu'où est allé l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous savons qu'il a donné son Fils, son unique, pour que nous puissions gratuitement recevoir le pardon. Alors Naaman s'est décidé, l'Éternel, Yahvé, sera son Dieu, l'unique objet de son adoration. Il demande à Élisée de pouvoir ramener dans son pays la charge de 2 mulets chargés de terre venue d'Israël. Pourquoi ? Il veut simplement qu'une fois qu'il sera sur sa terre à lui en Syrie, il puisse avoir un petit endroit où il aura mis de la terre d'Israël sur laquelle il bâtisse un autel. Et c'est juste une façon de signifier que pour lui, Syrien, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé au peuple d'Israël, ce Dieu-là est le seul Dieu et il sera l'objet de mon unique adoration, mon unique service. Et c'est vrai que sa détermination est bien claire et sans faille. Il sait pourtant aussi, Naaman, que quand il retournera au pays, il a des responsabilités officielles, il en aura encore. Et en tant que général en chef de l'armée, il est amené à accompagner son roi dans le temple de Rimmon, le dieu des Syriens. Et il ne pourra pas vraiment se dérober, il devra s'incliner devant l'idole. Mais d'avance, il demande pardon pour ce geste qu'il fera désormais de pure forme, dans lequel il ne mettra aucune adhésion de cœur. Élisée voit sa détermination, voit la clarté de son choix, il l'apaise. Il lui dit « va en paix ». Et je pense que c'est peut-être aussi un nouvel émerveillement de dire « on me fait confiance quand je dis la force de ma foi ». On me fait confiance. On sait quand je dis vraiment ce à quoi je tiens. On me fait confiance quand on sait faire aussi la différence entre l'essentiel et le secondaire. L'essentiel pour moi, c'est vraiment que, oui, un seul Dieu, j'adorerai que celui-là. On sait faire la différence. Le Dieu d'Israël est un Dieu qui regarde au cœur, aux dispositions fondamentales. C'est là-dessus qu'il nous juge fondamentalement. Il valorise cet essentiel. Nouvelle découverte. Nouvelle reconnaissance. Naaman découvre donc bien des richesses de Dieu. Un Dieu qui s'intéresse à nous. Un Dieu qui dépasse les frontières, les inimitiés. Un Dieu puissant pour agir, pour guérir, pour purifier. Un Dieu qui agit par pure gratuité. Un Dieu qui regarde au cœur. Et dans son parcours, il rencontre des témoins de ce Dieu-là qui sont vraiment à la hauteur. La petite, la servante, le prophète. L'un comme l'autre l'accueille, lui l'étranger, veuille son bien, dépasse les préventions, agissent de manière désintéressée. Il y a une vraie force dans cette cohérence. Mais notre histoire a aussi une facette un peu plus sombre en ce qui concerne les attitudes que rencontre Naaman, l'étranger, au sein du peuple de Dieu. Nous avons déjà vu qu'à la foi de la petite s'opposait le manque de foi du roi d'Israël. Et nous découvrons maintenant qu'à la générosité et au désintéressement d'Élisée va s'opposer l'envie et l'avidité de Géasi, le serviteur d'Élisée. Il est fort probable que c'est Géasi qui ait été le messager envoyé par Élisée au tout début, quand Naaman était arrivé auprès du roi d'Israël. Et Géasi a eu le loisir de voir toute la caravane des mulets chargés de richesses qu'apportait Naaman. Le refus d'Élisée d'accepter quoi que ce soit lui a semblé un immense gâchis. Mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui, j'en obtiendrai quelque chose. Quels sont les reproches que fait ici Géasi ? Mon maître a ménagé Naaman. Ce mot, il n'est pas là par hasard. Mon maître n'a pas traité cet homme comme il le méritait. Il l'a ménagé. Il a ménagé Naaman, ce Syrien. Il ne l'a pas traité non plus comme ce qu'il est. C'est un Syrien, se rappelle Géasi, un ennemi. Il a dépouillé notre peuple. Si ça se trouve, les richesses qu'il nous apporte, il nous les a prises. Je dois me débrouiller pour récupérer quelque chose. Voyez le regard sur cet homme. On l'a ménagé. C'est un Syrien. Il est sûr de son bon droit, Géasi, en disant « on l'a trop ménagé ». Il invoque même le Seigneur par la vie du Seigneur. Je vais obtenir quelque chose de lui. Et pourtant, il est complètement à côté de la pensée de Dieu, complètement à côté du regard de Dieu sur Naaman. Ce Syrien, justement, ce Syrien, Dieu l'aime. Dieu a choisi de faire de ce Syrien un des signes de sa générosité, un des signes de son pardon, un des signes de son amour qui dépasse les frontières. Géasi, lui, reste fixé, reste bloqué sur ce que justement le Seigneur veut dépasser. Et au nom de Dieu et de la justice, peut-être de Dieu, il contredit ce qui était le mouvement même du Seigneur, dont la petite, dont Élisée était des témoins fidèles. En s'autoproclamant le défenseur de la justice qui surtout ne veut pas ménager un général ennemi, il trahit le message que Dieu voulait donner. Les moyens qu'il emploiera sont tout aussi désastreux. Le mensonge, la duplicité. Deux jeunes gens d'entre les prophètes, dit-il, sont arrivés. C'est-à-dire, ça veut dire, aujourd'hui on dirait, il y a deux étudiants en théologie qui viennent arriver, parce que Élisée avait des gens qu'il formait. Il y a deux étudiants en théologie qui arrivent, il faut pourvoir leurs besoins. « Oh, je pense que mon maître dit, un talent d'argent, 25 kilos, ça devrait suffire, ainsi qu'un habit pour chacun. » Mensonge. Mensonge par rapport aux faits, mais aussi trahison d'Élisée, qu'il inclut dans son histoire, pour faire plus vrai. « Mon maître m'envoie te dire. » Ce qui est troublant dans cette histoire, dans cette réaction de Géasi, c'est d'une certaine façon le contraste entre les apparences de ce qu'il est en train de dire, du scénario qu'il est en train de monter, et la vraie gravité de sa faute. Ce qui est assez frappant, c'est que cette histoire, elle semble crédible. Oui, il y a deux étudiants peuvent arriver, comme ça, survenir, et que Élisée puisse demander un petit quelque chose pour aider, c'est plausible. Tant que l'histoire est crédible, tant qu'elle fonctionne, tout cela peut sembler anodin. Naaman ne s'estime pas spolié, au contraire, il est heureux de pouvoir rendre service à Élisée. D'ailleurs, la preuve, c'est que Géasi lui demande un talent, il dit « Non, je vais t'en donner deux, je suis tellement content de faire quelque chose pour Élisée. » La somme détournée est aussi limitée, deux talents d'argent, deux tenues. Il y avait 10 talents au départ, il n'a pas demandé la totalité, il n'a pas demandé toutes les tenues. Il n'a même pas visé l'or, les fameuses 6000 pièces d'or. C'est pas un braquage que fait Géasi. C'est pas un braquage, c'est juste demander quelque chose de limité, quelque chose qui semble à peu près pouvoir être acceptable. Ça a l'apparence du raisonnable, ça a l'apparence de l'acceptable. Mais ça, cette apparence de l'acceptable, qui ne frustrera personne, tant que le mensonge fonctionne. Tant que le mensonge fonctionne, tant que ça a l'apparence du crédible. Par contre, une fois la vérité dévoilée, tout s'inverse. La spontanéité de Naaman, sa joie à donner, c'est vrai qu'il était heureux de donner. Il était heureux de donner si c'était donné à Élisée. Mais pas à un menteur qui se sert d'Élisée et de la dette de reconnaissance de Naaman pour escroquer. Autant donner au prophète est une joie, autant se faire arnaquer est insupportable. Non seulement Naaman est trahi, mais Élisée aussi. Il s'est fait un point d'honneur d'être pour Naaman le témoin de la gratuité du don de Dieu. Il avait peut-être des vrais besoins à Élisée. Il formait des gens, il avait sa fac de théo, il avait des frais généraux et tout ça. Hein. Il avait choisi de dire non. Je n'accepte rien parce que je veux que tu comprennes que Dieu t'aime, que ce que Dieu donne, il le donne gratuitement. Que c'est générosité pure envers toi, ce qui t'a été fait. Et voilà quand son nom, son serviteur, son homme de confiance vient casser tout cela. D'abord, un petit peu édulcorer la ligne tant que Naaman peut croire à son histoire, et ensuite carrément tout inverser. Ah, ces gens-là, ils parlent de générosité, de désintéressement, et ils sont capables de te rouler dans la farine ensuite. Désastreux. Trahison d'Élisée, du message qu'Élisée voulait porter, et puis mise en doute de tout. C'est aussi le témoignage si remarquable de la petite fille qui est trahie. Elle avait donné une image du peuple de Dieu qui est capable d'ouverture extraordinaire. Voilà, des gens israélites peuvent aimer même les Syriens. Et voilà que tout cela tombe à l'eau. Cette image-là, elle tombe à l'eau devant la révélation de Géasi, de ce qu'il fait. La petite et le prophète m'ont fait rêver que d'autres relations étaient possibles, qu'on pouvait dépasser les rancunes, les amertumes. C'était un beau rêve, mais la réalité est là. Voilà comment j'ai été traité. On l'a épargné, on lui a pas assez demandé. L'ennemi, on peut faire ce qu'on veut, on peut le trahir. Désastreux aussi par rapport à ce témoignage de la petite. Et puis, c'est le Seigneur lui-même qui est trahi. Lui aussi a agi en faveur de Naaman, lui aussi a aimé Naaman. Lui aussi était heureux et fier de son peuple qui exprimait si bien cet amour en la personne d'Élisée, de la petite. Et voilà que Géasi vient tout ternir et casser cette belle unité, cette belle cohérence. Il vient rappeler que pour une belle avancée, il y a aussi tellement de lenteur. Que pour une belle attitude d'accueil et de pardon, il y a parfois des raidissements, du ressentiment. Elles font mal quand même, ces limites que Géasi met en lumière. Ils vont loin, les retentissements de ce qui semblait être une petite histoire acceptable qui ferait de mal à personne, tant qu'on ne savait pas. Et c'est à cause de ces enjeux, parce que ça va aller si loin, qu'Élisée a réagi avec fermeté, et le Seigneur aussi. La maladie de Naaman s'attachera à Géasi, avec toutes les conséquences que cela a en Israël, l'exclusion du culte, l'exclusion de la vie sociale. J'aimerais relever, termine par là, j'aimerais relever le piège qui illustre ce récit. Il me semble que ce qu'on voit ici, c'est que tant que l'on masque le mal et nos combines sous des apparences acceptables, ça peut sembler anodin. L'histoire de Géasi, si on n'avait jamais su ce qui s'était passé, ça pouvait sembler très très anodin. Ça peut sembler anodin, ça peut ne léser personne. Tant qu'on masque les choses, tant que ça tient, ça ne lésera personne. Mais dès que le mal et les vraies combines qui sont derrière sont démontées, ce qui semblait inoffensif se révèle dans toute sa gravité. Une gravité dévastatrice parfois. Et ça nous pose quand même la question, comment juger nos propres actes? Ne jugeons pas nos actes en disant, tant que les apparences sont sauves, tout va bien. Finalement, tant qu'on reste à ce que je veux laisser paraître, tout va bien. Pas vu, pas pris, et ce sera anodin, ça fera pas de vague. Il faut jamais que ce qu'on destine comme à être un écran de fumée pour les autres, ne devienne un écran de fumée pour nous par rapport à nos propres actes. On monte une petite combine comme cela, comme Géasi, on sait ce qu'on fait. Il ne faut pas se cacher derrière l'écran de fumée des autres pour se cacher à soi-même la réalité des choses. Et ce qui est très très important, lorsque nous essayons de penser nos actes à nous, de les penser et de les juger selon leur vérité, et de se dire... Et si tout cela venait à jour, qu'est-ce qu'on en penserait? Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez? Pas se juger d'après les écrans de fumée qu'on essaye de mettre, mais en disant, si toute la vérité profonde venait un jour, qu'est-ce que ça signifierait? Jésus nous invite à venir à la lumière, pour que cette lumière dévoile vraiment nos œuvres. Celles qui sont faites, honnêtement, qui sont faites en Dieu, elles peuvent être dévoilées. Il sera manifesté alors à ce moment-là qu'elles sont faites vraiment en Dieu. Mais la vérité d'une œuvre dévoilée, c'est vraiment tout ce qu'elle est, dans toutes ses composantes, toutes ses rouages. Et je propose vraiment que nous réfléchissions à cela. Ne nous laissons pas nous-mêmes masquer les choses par des écrans de fumée que nous mettons devant les autres. Soyons honnêtes par rapport à nous-mêmes et sachons regarder les choses vraiment en vérité. L'autre question que nous laisse ce texte est celle de du rôle que nous allons jouer par nos études. Serons-nous de bons ambassadeurs de Dieu, de son amour, de son désir de faire du bien, ou risquons-nous de ternir par nos attitudes ce que Dieu voudrait, au contraire, promouvoir? Quels ambassadeurs de Dieu sommes-nous? Quand nous lisons ce texte, il est utile de repenser chacun des personnages. Il y a la petite, tellement admirable. Il y a le roi, sans ressort, sans foi. Il y a le prophète, fidèle témoin de son Dieu. Il y a le serviteur, qui vient tout contredire. Ne nous identifions pas d'emblée à ce que l'on admire. Nous savons que si parfois nous sommes admirables, parfois nous sommes aussi capables du moins bon. Ne nous décourageons pas non plus si nous nous trouvons un petit peu plus du mauvais côté. Revenons à Dieu tel que nous sommes, pour lui demander de nous pardonner, de nous purifier, mais de nous renouveler intérieurement et de nous fortifier pour être un peu plus à la hauteur. En tout cas, ce que je demande pour moi, pour nous, c'est la grâce d'une transformation continue de notre vie, d'un affermissement vraiment de la vie de Dieu en nous, pour qu'il soit manifeste vraiment. Ce que nous faisons est accompli en Dieu, en harmonie avec lui, et que nous puissions être de cette façon de bons ambassadeurs de celui qui nous a tant aimés, du Seigneur, l'unique, de Jésus-Christ, qui nous a aimés. Amen.